France Culture.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
En 1945 était créé en France un dispositif encore et toujours unique au monde nommé la Commission consultative des recherches archéologiques à l'étranger. Cette commission des fouilles pilotée par le ministère des Affaires étrangères était d'abord destinée à redorer l'image de la France à l'étranger mais aussi à exercer et transmettre un savoir-faire archéologique aux quatre coins du monde. Chemin faisant, comme nous allons le voir aujourd'hui, l'archéologie s'est muée en un pilier solide de diplomatie culturelle autour duquel se sont nouées au fil des décennies d'importantes coopérations. Alors qu'on s'apprête à fêter les 80 ans de cette commission des fouilles, comment ces missions se sont-elles transformées dans la deuxième moitié du XXe siècle marquée par les guerres d'indépendance et la décolonisation? Et quels sont aujourd'hui les enjeux brûlants auxquels se confrontent les archéologues de la Commission à l'heure où de nombreuses menaces, qu'elles soient politiques ou climatiques, pèsent sur le patrimoine de l'humanité? Pour répondre à ces questions et pour souffler les 80 bougies de cette commission des fouilles, nous avons le plaisir d'être en ligne aujourd'hui avec Alexandre Farnoux. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes archéologue, historien, professeur des universités en archéologie et histoire de l'art grec à Sorbonne Université. Et vous êtes le secrétaire général de la commission des fouilles au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et nous sommes en studio avec Nicolas Grimal. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, archéologue et égyptologue, membre de la commission des fouilles dont vous avez été le secrétaire général. Et vous êtes l'auteur du livre « L'archéologue et le diplomate » paru aux éditions Les Belles Lettres en 2025. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation à parler de l'histoire de cette institution archéologique française. Avant de parler des conditions dans lesquelles elle est née, cette commission, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et de parler de son évolution jusqu'à nos jours, il peut être intéressant de donner quelques éléments de contexte. Nicolas Grimal, on va faire un petit peu d'histoire de l'archéologie aujourd'hui. En quoi cette archéologie française s'est-elle construite tout d'abord à l'étranger?
Pour une raison simple, d'abord, c'est qu'elle n'existait pas en métropole. Donc déjà, il y avait une tabula rasa. En fait, elle est issue à la fois des Lumières françaises et en même temps des volontés d'expansion colonialiste, disait-on à mon époque, coloniale dirait-on aujourd'hui, qui ont été accompagnées et qui ont accompagné les grands voyageurs. Ça a commencé par les grandes expéditions, les grands voyageurs qui nouaient des contacts commerciaux, politiques et en même temps s'intéressaient à des civilisations qu'ils découvraient. Alors, on ne parlera pas du Pacifique, hein, qui est un grand sujet, mais plus près de nous, ça s'est accompagné de motivations plus ou moins montrables, économiques, politiques et en règle générale expansionnistes. C'est ainsi que l'expédition d'Égypte, qui a été un des grands éléments fondateurs de l'archéologie à l'étranger, a été demandée avec instance par ce bouillant général qui, en fait, cassait les pieds de tout le monde à Paris et qui faisait peur, qui a fini par obtenir de mener une expédition dont le véritable objectif était de couper la route des Indes aux Britanniques. Mais, disons, Révolution française et Lumière oblige, cette expédition a été aussi une exposition scientifique, puisqu'il s'est entouré de jeunes savants, de jeunes chercheurs. Même chose pour l'expédition de Morée. On va libérer la Grèce, lui permettre de secouer le joug ottoman, mais en même temps, on fait. Et c'est sur ce fond-là qu'a commencé à s'implanter en France, alors généralement par le biais des sociétés savantes et en particulier des académies dont la nôtre, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui ne portait pas encore ce nom à cette époque-là, l'idée que l'accompagnement scientifique devait être cadré et donc permettait d'avoir une restitution, un rendu sous forme de publication qui était validée. Alors, le tout a été de savoir quand la balance s'est faite plus dans le sens de l'un que de l'autre. Mmh. En Égypte, par exemple, c'est pas un secret que Bonaparte a été vaincu. Donc il s'est plus ou moins enfui, il est parti, et l'influence de la France politique et économique est tombée. Donc les Britanniques se sont installés dans les babouches, si je puis dire, de la Sublime Porte. Du coup, la France a développé l'autre carte, la carte de la culture, du développement, et c'est encore l'image que nous avons aujourd'hui en Égypte. L'amitié traditionnelle de la France et d'Égypte repose essentiellement sur le développement culturel, économique, etc., etc. En Grèce, le politique a été beaucoup plus proche, puisque la France a été, si je puis dire, du bon côté. Du côté qui a fini par l'emporter. En plus, la brutalité, la violence des massacres qui ont eu lieu a fait des courants d'opinion en France qui ont porté, en quelque sorte, cette vague. Et c'est là-dessus qu'on est passé à une étude plus scientifique, plus technique des civilisations anciennes, et non plus à jeter sur elles un regard romantique assorti d'une vague volonté de monter des collections.
Alexandre Farnoux, vous avez été directeur de l'École française d'Athènes, autrement nommée École française d'archéologie d'Athènes, une école qui a été créée en 1846. En quoi consistait ce modèle d'école française à l'étranger et quels ont été finalement leurs apports à elle, à l'archéologie, peut-être de façon moins guerrière que dans le cadre de ces grandes expéditions qu'on mentionnait à l'instant?
Oui, en effet, l'École française d'Athènes est la première des institutions créées à l'étranger pour accueillir des jeunes spécialistes, d'abord des philologues. Et elle est créée en 1846, quelques années, 4 ans après la création du Bureau des missions et des voyages au ministère de l'Instruction publique, qui visait justement à prendre la suite des grandes expéditions scientifiques et à encadrer les missions d'exploration accordées à des chercheurs à travers le monde. Alors, dans le cadre de cette expansion française scientifique, on décide de créer à Athènes une école qui va accueillir justement un certain nombre de jeunes chercheurs qui viennent travailler sur l'hellénisme, entendu à l'époque au sens large, hein, puisque l'hellénisme, c'est une civilisation qui s'est développée dans toute la Méditerranée. Et donc, cette école installée à Athènes va aussi développer des programmes dans des régions qui relèvent encore de l'Empire ottoman, accueillir des philologues qui vont faire du terrain et commencer les premières fouilles. Et cette institution va donner l'exemple des premières grandes fouilles archéologiques, en particulier à Delphes en 1891, et ensuite toute une série de fouilles dont le gouvernement grec va lui accorder les autorisations. Et sur ce modèle de l'École française d'Athènes va se développer les 4 autres grandes écoles françaises à l'étranger, celle qui est installée à Rome, celle qui est installée au Caire, à Madrid et en Extrême-Orient, maintenant installée à Paris. Et ces écoles vont avoir toutes un volet archéologique qui vont leur permettre de développer des recherches de terrain qui sont en quelque sorte des recherches qui fournissent des données primaires pour étudier les civilisations du passé.
Nicolas Grimal, on comprend bien là avec cette notion d'école qui a une volonté de transmettre aussi un savoir-faire archéologique ou en tout cas de constituer des équipes d'archéologues déjà en germe dans ces écoles. Donc on a vraiment finalement une sorte d'ambivalence, d'ambiguïté entre cette archéologie de guerre d'une certaine façon dans un cadre colonial de spoliation bien sûr de biens matériels, mais aussi la volonté de créer des pôles de transmission à l'étranger d'un savoir-faire archéologique à la française. On va en arriver doucement à cette commission des fouilles avant la Seconde Guerre mondiale, finalement. C'était le CNRS qui était en charge de cette archéologie à l'étranger. Qu'est-ce qui a fait qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle se soit dit « on a besoin de confier cette commission-là au ministère des Affaires étrangères » et avec l'aide de qui il va faire ça ?
Oui, en fait, on fait un grand saut. Hein,
parce bien sûr.
Il faut bien voir que les grandes écoles, en même temps, ont permis d'apprendre et de constituer des disciplines qui n'existaient pas, y compris sur la technologie de l'archéologie, etc. Bon, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que après la Grande Guerre et avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait eu le constat dans lequel la France a essayé de jouer son jeu, qui était d'établir des relations entre les nations fondées non pas sur l'affrontement et sur une sorte, cette espèce de course à l'échalote pour être le premier et le plus fort, mais sur une diffusion de la culture et des connaissances. Donc là, on est toujours dans cette même pensée française, et il est évident que il fallait trouver une structure qui soit capable de porter à l'international. Et ça, il n'y avait que le ministère des Affaires étrangères. C'est ce qu'avait très bien compris de Gaulle, qui, après la libération, s'est mis, si je puis dire, en tandem avec un autre personnage absolument extraordinaire, qui était Henri Sérig. Mmh. Henri Sérig a commencé à apprendre l'amour de la Grèce ancienne dans sa chair, puisqu'il s'est battu aux Dardanelles, il a été blessé, il a été décoré, c'est un homme au courage extraordinaire, et il est venu, il s'est installé, il est même entré à l'école d'Athènes. Bref, il a appris les moyens qui lui permettaient d'entrer dans ces domaines-là. Du coup, il est devenu le plus fervent et le plus brillant porte-parole de l'archéologie en tant que tel et comme moyen diplomatique. Général de Gaulle, avec sa vision qui ne s'est pas démentie encore aujourd'hui, a bien considéré que la guerre n'était pas une solution, ce qui est remarquable pour un militaire de carrière, mais qu'il y avait dans des entreprises pareilles une opportunité à saisir. D'autant plus que le mandat s'était mis en place au Levant et que les pays du mandat étaient des pays qui n'avaient pas de cadres patrimoniaux, pas de cadres archéologiques, et donc il a vu là une possibilité que la France avait devant elle, qu'elle avait déjà joué en Égypte pendant le 19e siècle, en créant le service des antiquités. En fait, la France a été le modèle des services des antiquités dans le Proche et le Moyen-Orient. Donc les deux hommes se sont mis d'accord pour exploiter une possibilité que venait de donner le CNRS, qui au moment du Front Populaire avait créé une commission qui était 36, je crois, enfin je me trompe peut-être, qui était consacrée à l'archéologie. Mais bien évidemment, le CNRS n'avait pas les moyens de faire fonctionner un réseau d'archéologie international. Et les deux hommes ont eu cette idée, quand les affaires ont repris, simplement de dire, confions aux affaires étrangères qui a la capacité réseau de le faire, ce que le CNRS, sur le plan scientifique, va faire. Mais quand je dis CNRS, ça n'a pas été que le CNRS, parce que se sont mis dans la danse les universités, enfin, toutes les institutions de recherche, y compris d'ailleurs les grandes écoles. Et donc l'idée a été de réunir un aréopage d'archéologues, de chercheurs et de responsables institutionnels qui soient capables d'évaluer des missions. Aujourd'hui, il y a presque 200 demandes pour environ 160 accordées, qui vont les évaluer, les juger et juger de l'opportunité de les appuyer ou non. Donc c'est un filtre qui est très très exigeant, puisque les membres de la commission sont eux-mêmes généralement évalués. Ils sont aussi chefs de mission et autres. Et cela fait, ça donne en quelque sorte un feu vert aux affaires étrangères pour les appuyer, et le réseau diplomatique est très fort et très très influent. Donc vous voyez, on bénéficie des affaires étrangères, mais les affaires étrangères tirent aussi leur épingle du jeu, ce qui a permis de développer depuis l'après-guerre cette idée de diplomatie d'influence qui est devenue réelle. C'est-à-dire qu'on est dans des applications pratiques.
Alexandre Farnoux, à l'instant, Nicolas Grimal parlait de diplomatie d'influence. On parle aussi de diplomatie scientifique dans le cadre de cette émission. Alors, pourquoi l'archéologie est-elle autant une discipline qui se prête à ce genre de jeu de diplomatie culturelle et de diplomatie scientifique? Pourquoi, finalement, le ministère des Affaires étrangères n'a pas créé une commission de la biologie internationale ou de la commission de la santé? Je ne sais pas.
Alors, en effet, l'archéologie s'y prête, et je pense que c'est aussi une des raisons qui fait que De Gaulle a compris ce que lui a apporté Henri Seyrig, qu'il connaissait évidemment, puisqu'Henri Seyrig avait rallié la France libre très rapidement dès 1941 en quittant Beyrouth pour rejoindre Londres. Henri Seyrig connaissait très bien le milieu archéologique, pas seulement le milieu grec, mais aussi tout le milieu du Proche-Orient, puisqu'il était en poste, en fait, déjà avant la guerre à Beyrouth, et qu'il s'était constitué tout un réseau qui couvrait la Syrie, l'Égypte, et donc il connaissait très bien le milieu. L'archéologie a en effet ce site particulier que les archéologues sont des hommes de terrain au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'ils travaillent au plus près à la fois des antiquités dont ils contribuent à mettre au jour, mais aussi au plus près des populations qui habitent dans toutes ces régions. Et donc un archéologue, c'est quelqu'un qui fréquente au quotidien et sur la longue durée aussi bien les ouvriers que les familles d'ouvriers, les conservateurs de musées, les autorités locales, le maire, le maître d'école, le pop, mais aussi évidemment les autorités dans la capitale du ministère de la Culture et les ministres, etc. Donc un archéologue, c'est quelqu'un qui a une vision du pays dans lequel il travaille, qui est humainement extrêmement large, et donc une très bonne connaissance des milieux, des courants d'opinion, de la situation locale, et un très bon réseau d'implantation. Donc c'est quelqu'un qui est une source d'information remarquable, pas seulement sur le passé des civilisations, mais aussi par ses liens personnels et professionnels, un ancrage dans les sociétés avec lesquelles il travaille. Donc ça fait des métiers qui sont très particuliers dans les relations qu'on peut avoir avec les pays d'accueil.
Nicolas Grimal, à l'instant, Alexandre Farnoux rappelait que les archéologues sont des hommes et des femmes de terrain. Alors ça ressemble même parfois à des ambassadrices ou des ambassadeurs longue durée, plus longue durée que les ambassadeurs qui sont en poste, vu le temps qu'ils passent justement à travailler sur place, à rencontrer les communautés locales. Mais parfois, ce terrain se dérobe sous les pieds des archéologues, notamment, voilà, ça a été le cas, je le rappelais en début de cette émission, dans la seconde moitié du XXe siècle, avec cette décolonisation, les guerres d'indépendance. Comment la commission des fouilles a-t-elle évolué à partir de ce moment-là? Quels ont été les terrains qui ont été interdits aux archéologues français à partir de cette décolonisation? Et est-ce que il y a eu au contraire d'autres terrains qui sont restés des terrains fertiles de recherche française archéologique à l'étranger?
Oui, vous savez, on dit parfois que l'archéologue est le premier arrivé et le dernier parti. parce qu'effectivement, il est dans une longue durée, dans des contacts humains, culturels, etc. Surtout, il n'a pas d'ambition politique et économique, et il ne sert pas de paravent à des visées un peu plus triviales. Donc, il y a une certaine confiance qui se fait envers l'archéologue, d'autant plus que son objet, c'est le patrimoine des populations au milieu desquelles il vit. Donc, il n'est pas là, on est passé, c'est un des grands bienfaits de cette politique, on est passé à une idée de développement des patrimoines locaux avec les gens donc, qui en sont les propriétaires, en les aidant à y accéder. Donc, ça donne une vision complètement différente de la présence française. On ne cherche pas à vendre des avions, hein. On est là pour aider les gens à exploiter leur propre patrimoine. Ils me souviennent d'avoir été, quand j'étais dans les fonctions qui sont aujourd'hui celles d'Alexandre, d'avoir fait une tournée en Amérique centrale, dans les six pays d'Amérique centrale, qui n'avaient pas de structure patrimoniale nationale. Donc on les a aidés à envisager de créer des ministères de la culture, etc. Ça, c'est un rôle qui est tout à fait celui qui est capable d'aider à soulever des voiles ou des chapes de plomb qui sont tombées. Alors, vous posez la question de savoir, il y a eu des interdictions. Oui, on a eu par exemple en Syrie, les équipes françaises pendant 12 ans n'ont pas pu intervenir pour des raisons qui ne les concernaient pas. Mais il faut bien vous dire que dans ce temps-là, la recherche continue. C'est-à-dire qu'on est coupé du terrain, bien sûr, mais la recherche continue, avance et fournit de nouveaux arguments pour reprendre, pour retravailler. Alors un site abandonné, parce qu'on ne peut plus y aller, est évidemment en grand péril, mais il n'est pas mort, il continue à vivre. Et puis il y a la communauté internationale des archéologues qui est très forte et qui passe souvent sous le radar politique et autres, et qui fait que les relations continuent. C'est très à la mode depuis une vingtaine d'années de publier les correspondances entre savants de pays qui ne s'entendaient pas. Ça existe, c'est vrai, c'est réel. Et puis il y a encore un autre élément qui est débloquant, si je puis dire, c'est qu'il y a des disciplines qui se développent et qui nécessitent un accès terrain, et cet accès terrain, souvent, peut contourner, en gros, les impossibilités politiques. Je pense à certains territoires d'Afrique, sur lesquels on travaille maintenant beaucoup plus, qui avant étaient considérés comme un peu tabous, si vous voulez. Maintenant, on y va parce que la science s'est aussi décomplexée de ce côté-là. C'est pas vrai partout, bien sûr. Mais c'est certainement un des progrès que peut apporter l'archéologie. En même temps, cette vision, et ça j'y insiste, désintéressée, en fait, ce regard désintéressé. Et ça, les autorités des affaires étrangères l'ont bien compris. Ça fait maintenant très longtemps que je fais partie de cette commission. Je n'ai jamais subi la moindre pression politique pour faire ceci ou cela. Ça, sauf quand c'était dangereux, on vous explique qu'on ne peut pas y aller. Mais c'est...
Si on doit mentionner justement Nicolas Grimal, vous faisiez référence à votre connaissance de cette commission depuis un certain temps. Si on doit mentionner quelques grandes missions archéologiques auxquelles a contribué cette commission des fouilles archéologiques de la France, quelles pourraient-elles être ?
Alors, il faut s'entendre sur ce que l'on appelle grande mission. Il y a les découvertes spectaculaires, qui sont de grandes découvertes, il n'y a absolument rien à dire, mais qui font pas vraiment avancer les choses. Alors pour ça, le pays où est mon cœur, l'Égypte, est très spécialisé. Parce que ça crée des mouvements économiques importants, les trésors, puis les pharaons, ça a toujours fait rêver. Donc je ne vais pas prendre d'exemple en Égypte. Mais dans des domaines beaucoup moins accessibles au public encore que, la valorisation en ayant été bien faite. Je pense à Toumaï, par exemple.
L'homme de Toumaï.
On a là de grandes découvertes qui font avancer pas seulement une discipline, mais un ensemble de disciplines. Et ça, c'est aussi grâce à la commission des fouilles. Toutes les fouilles qui sont faites au Tchad et ailleurs, s'il n'y avait pas eu le réseau diplomatique, c'était compliqué de les faire. Et ça s'est fait. Et les décideurs français ont eu l'intelligence de comprendre qu'il fallait aussi appuyer une recherche plus fondamentale qu'une recherche à grand spectacle. Donc, oui, il y a ces découvertes-là, il y a les découvertes en Amérique centrale maintenant et Amérique du Sud qui sont de plus en plus importantes. Songez par exemple, je sais pas, à Caral au Pérou, on a mis au jour dans une fouille française des vestiges pas très très anciens mais dont la présence a pu être corrélée à d'autres et donc qui crée une chaîne historique qui précède historiquement les pyramides guatémaltèques, mayas, etc. On a eu aussi des découvertes alors qui touchent à plusieurs disciplines, toujours puisque je suis à Caral, dans cette zone éminemment sismique, il y a eu, à l'occasion d'une faille, tout un cimetière qui est apparu en relation avec un centre de culte local. Un cimetière pas très ancien, 8e, 6e siècle avant notre ère, mais dans lequel on a trouvé un secteur consacré à des enfants. Et dans ce secteur, des sépultures de fœtus. C'était il y a quelques années, en plein milieu de la grande discussion sur l'être humain, existe-t-il avant la naissance. Et tout d'un coup, il y a eu là une rencontre entre éthique, biologie, archéologie, Carrel n'est pas très connu dans le monde savant, oui, qui a amené des progrès. On a ça, si vous voulez. C'est comme dans toutes les disciplines.
Alexandre Farnoux, vous souhaitiez réagir?
Juste sur le point de la question initiale que vous aviez posée à propos de la décolonisation, en effet, il faut préciser quand même ce que, juste après la Seconde Guerre mondiale, ce que propose Henri Seyrig à De Gaulle, c'est en effet de développer des relations entre les pays fondées sur la constitution d'un réseau savant et d'un réseau scientifique et la construction de coopération entre des pays nouveaux et des pays anciennement colonisés. Et là, il y avait évidemment une possibilité de reconstruire des relations internationales dans lesquelles la part de coopération scientifique deviendrait plus importante. Et Henri Seyrig était lui-même un partisan de la décolonisation et ils se sont retrouvés avec De Gaulle sur ces questions par la suite. Et c'est ce qui a fait, en effet, qu'a pu se construire tout ce réseau appuyé sur le MAE et appuyé sur les réseaux du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ce réseau permet des découvertes très importantes, comme vient de le rappeler Nicolas, sur des domaines extrêmement variés qui vont de la préhistoire aux époques les plus récentes, y compris les époques médiévales, sur l'ensemble du monde et dans des régions extrêmement différentes. Nicolas en a cité déjà un certain nombre. Les recherches sont faites aussi en Irak, où on a repris des fouilles anciennes comme à Khorsabad, avec des découvertes nouvelles importantes, ou des découvertes qui peuvent paraître moins importantes, mais qui sont pour nous des champs nouveaux grâce à des technologies nouvelles comme l'analyse des matériaux, en particulier dans un pays comme le Cambodge, où on est là depuis très longtemps, encore en particulier. Des programmes sur la métallurgie, par exemple, qui peuvent paraître des programmes plus mineurs, évidemment, par rapport à l'architecture de ces grands temples, ont permis de découvrir toutes les procédés de fabrication de statues en bronze et abouti, par exemple, à la très belle exposition qui a eu lieu au musée Guimet l'an dernier sur les bronzes Khmer. Donc, on voit bien comment cette recherche, elle produit des résultats scientifiques qui favorise les relations entre les chercheurs, qui favorise la présentation de ce patrimoine et cette valorisation du patrimoine auquel les pays d'accueil sont évidemment très attachés et auquel concourt la France par le biais de ses chercheurs à l'étranger. Donc les exemples, en effet, à travers les 160 missions que recommande et que finance la Commission, on a autant d'exemples, depuis l'Alaska jusqu'à la Corée du Nord et depuis la Russie jusqu'à l'Afrique du Sud. C'est un monde qui produit des résultats extrêmement divers, mais d'une très grande portée scientifique à chaque fois, parfois très mineure. Par exemple, la découverte d'épinards de traces d'épinards dans le désert
pour des
époques très anciennes, c'est pas mineur du tout pour nous parce que ça nous révèle un aspect du monde, évidemment, auquel on n'est pas du tout habitué, qui ne correspond pas à l'aspect du monde que nous connaissons aujourd'hui. Aspect du monde qui change évidemment très vite à cause du changement climatique, que les archéologues documentent évidemment très bien aussi de leur côté.
Alors ce changement climatique, il est particulièrement important pour la pratique de l'archéologie dans des zones qui sont très exposées. On avait reçu à ce micro l'archéologue Claire Oumar, qui, elle, œuvre en Alaska sur l'archéologie des Yupit, une archéologie de l'urgence pour sauver ce qui peut être sauvé des dégradations liées au réchauffement climatique. Nicolas Grimal, le monde est par ailleurs lézardé de conflits aujourd'hui. Comment on navigue en tant qu'archéologue dans ce monde-là quand on fait partie de cette commission des fouilles? Quels sont les enjeux finalement cruciaux, actuels, pour cette commission des fouilles 80 ans après sa naissance?
Alors, merci d'abord d'avoir évoqué l'expédition d'Alaska qui effectivement fait partie de notre ensemble et qui révèle bien l'ouverture d'esprit qui règne à la commission des fouilles. C'est difficile parce que il y a une interférence assez grande entre intérêts politiques, économiques, écologiques, etc. Que fait le malheureux chercheur que l'on imagine armé de sa truelle en plein désert? Bon, on ne peut pas lutter contre des lames de fond, si je puis dire. Mais ce que nous pouvons faire, nous, c'est d'abord tenir compte des évolutions dans nos recherches, bien sûr. Surtout que maintenant, on fait beaucoup plus d'études de paléoclimatologie. Vous savez, même simplement, si je prends l'exemple, un exemple que j'emprunte à mon cher Jean Guilaine, comment a-t-on su que le blé était arrivé à Chypre? Eh ben, on l'a su parce qu'on a retrouvé des ossements de souris. Donc, vous voyez, on jette un regard qui ne paraît plus le regard de l'archéologue tel qu'il était au 19e siècle, mais qui procède exactement de la même idée. Alors ça, c'est effectivement notre arme principale, la pluridisciplinarité, qui est très grande, qui nous permet, je pense en particulier aux études des fonds marins, j'évoquais la côte nord du Pérou, on sait que l'archéologie nous donne des éléments qui peuvent apprécier les évolutions du Niño et de la Niña, qui sont de véritables catastrophes, simplement parce que la concha va avancer ou reculer selon le moment, ou que l'on voit apparaître tout d'un coup des araignées énormes parce qu'il va y avoir un tremblement de terre. Vous voyez, ces choses-là, on apprend à les observer, à les documenter et à les mettre en phase avec une perspective historique que l'on n'a pas forcément. Mmh. Donc ça, c'est pour le côté purement scientifique. Maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes une communauté humaine, intellectuelle. L'information circule bien dans cette communauté. Et elle est utile, parce qu'elle permet, il n'est pas question d'avoir des opérations communes, visibles, etc. Mais elle permet, à travers les rencontres scientifiques que nous avons, sur les résultats obtenus, d'orienter différemment la recherche, ou de mettre l'accent sur tel ou tel aspect dont on sent qu'il va avoir une influence. La climatologie, c'est absolument évident, mais ce n'est pas le seul terrain.
Alexandre Farnoux, pour conclure cette émission, quels sont les enjeux à venir pour cette commission des fouilles qui, à 80 ans finalement, ne voit son histoire que commencer? 2 millions d'euros sont alloués chaque année à des missions de fouilles. C'est pas énorme, mais en même temps, ça permet voilà d'apporter un soutien et d'apporter finalement un label à ces recherches archéologiques à l'étranger. Quels sont, selon vous, voilà, en tant que secrétaire général de cette commission, les enjeux à venir de cette recherche archéologique à l'étranger?
Les enjeux de cette commission et de cette recherche qu'elle soutient correspondent aux critères que nous avons d'évaluation, pour lesquels l'excellence scientifique qui a été rappelée à plusieurs reprises ici est évidemment en premier lieu. Mais il y a deux volets très importants et qui sont des enjeux pour nous qui comptent beaucoup, qui sont les enjeux autour de la formation, c'est-à-dire que ces missions sont aussi des écoles, des chantiers-écoles dans lesquels on forme de jeunes chercheurs, aussi bien français qu'étrangers des pays d'accueil. Ce sont des missions aussi de valorisation du patrimoine, c'est-à-dire que le savoir scientifique que nous produisons contribue à apporter des informations pour permettre de sauver des vestiges, de les restaurer, de les consolider, de les mettre en valeur, à la fois en les intégrant dans le patrimoine des pays et dans l'histoire de ces pays, mais de les valoriser ensuite pour une exploitation qui va être faite d'un point de vue économique et donc d'aider à l'économie de ces pays. Et donc l'enjeu de la Commission, c'est de continuer de soutenir cet espace d'échange pacifique entre les chercheurs, les acteurs du patrimoine, les formateurs, de façon à constituer cette dynamique autour de ces valeurs que nous partageons, de la connaissance de l'humanité et de ses aventures extrêmement diverses depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Donc la Commission en tant que telle, c'est un rouage dans cette mécanique mondiale de la connaissance scientifique autour des questions patrimoniales. Et en ce sens, elle joue un rôle important et c'est sa mission principale pour les années à venir.
Et on lui souhaite longue vie. Merci beaucoup à vous, Alexandre Farnoux, et merci à vous, Nicolas Grimal, d'être venu nous parler de cette commission des fouilles du ministère des Affaires étrangères. Nicolas Grimal, je rappelle le titre de votre livre, « L'archéologue et le diplomate », c'est paru aux éditions Les Belles Lettres. Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Notre émission touche à son terme. Un grand merci à toute l'équipe, Eve Etienne, Bruno Sansini, à la réalisation Olivier Bétard. Merci à Grégory Wallon, aujourd'hui à la technique, et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle exploration du passé au présent.